Et c'est exactement ce qui se passe dans ce dialogue-là. Les bourreaux de la Germana Stefanini ne la voient même pas pleurer parce qu'ils ne voient quasiment pas, ils ne voient littéralement pas son visage, ils ne voient que son rôle. Ils se sont trompés de rôle, mais quand bien même ne se seraient-ils pas trompés, le scandale serait tout aussi fort. Il s'agit de la réduction absolue du visage à un rôle, de l'intégration de la réalité humaine dans une totalité qui prétend l'épuiser. Et l'un des aspects les plus terribles de cette logique révolutionnaire, de ce messianisme-là, c'est précisément au nom de la raison dans l'histoire de faire disparaître, justement, de la scène du monde, le visage humain. Et il est beaucoup plus facile de tuer un être dont on a aboli le visage que de s'en prendre à un visage. Tuer Germana Stefanini pour les Brigades Rouges, c'est non plus tuer quelqu'un, mais éliminer un ennemi, et pas simplement un ennemi, c'est un acte philosophique qui consiste à effacer une abstraction à laquelle on ne croit pas, ou que l'on combat, ou que l'on conteste. Et il me semble que c'est là que réside ce qu'il y a, disons, de plus pervers dans la logique révolutionnaire, ce qu'il y a de plus profondément dangereux. L'intégration, l'absorption, l'englobement de tous les êtres dans un système et, je le répète, la disparition du visage au profit du rôle. Alors, contre la rage d'exclure, on peut prêcher la tolérance. Et c'est le mérite, justement, des temps modernes européens que d'avoir introduit la vertu de tolérance. C'est même ce qui définit, je crois, l'Europe par rapport aux autres civilisations. La tolérance qui ne consiste pas simplement à laisser l'autre être ce qu'il est, mais la tolérance qui consiste à introduire une espèce de doute et de relativité dans les idées, dans les habitudes et dans les coutumes que l'on a soi-même. C'est cela, la tolérance telle que, à partir de Montaigne, l'Europe s'est enseignée à elle-même. Parce que bien sûr, la tolérance qui consiste à laisser l'autre être ce qu'il est dans son coin, cette tolérance-là, des civilisations nombreuses l'ont pratiquée. Mais la tolérance comme critique, comme autocritique, comme doute, comme soupçon interne, ça c'est, je crois, l'œuvre, la grande œuvre, l'œuvre spécifique et originale des temps modernes européens. C'est ce qui spécifie l'Europe et ce qui fait que une certaine idée européenne mérite, je crois, notre respect et a quelque chose d'où que nous venions à nous apprendre. Mais face à la rage d'exclure, on peut prêcher la tolérance. Mais face à la rage d'inclure, qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qui, justement, peut nous permettre d'échapper à cette volonté systématique d'englobement, cette certitude d'avoir raison, d'être dans le sens de l'histoire, et que tous les actes humains s'expliquent par cette histoire que l'on connaît à l'avance. Non pas la volonté d'exclure l'autre, mais cette bizarre arrogance qui consiste à en savoir sur l'autre plus que lui-même, et à juger à condamner ou à apprécier l'autre au nom de ce savoir. Face à cela, que faire? Et il me semble que dans beaucoup de cas, le retour au judaïsme s'explique ainsi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on a, à tort ou à raison, impliqué le messianisme juif dans le messianisme révolutionnaire. On a dit, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, que le messianisme révolutionnaire a pris une part de son énergie et de son impulsion à tout ce qu'avait emmagasiné en lui-même le messianisme juif. Mais d'un autre côté, on peut dire aujourd'hui, je crois, que c'est dans une réflexion authentiquement juive que l'on peut trouver de quoi échapper à cette fascination de la totalité, à cette consécration de l'histoire, à cette absorption du visage dans le rôle qui caractérise la logique révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que c'est le judaïsme qui a donné au monde cette notion qui paraît très onctueuse, qui paraît très homélitique, qui paraît dépourvue de toute substance réelle, tellement elle a été employée, qui paraît pleine de Saint-Sulpicerie maintenant, la notion de prochain. La tolérance, c'est le fait d'envisager l'autre en tant qu'il est différent, d'accepter cette différence et même de l'intégrer en soi pour savoir à la fois adhérer à ses propres valeurs et relativiser ses valeurs parce qu'on sait qu'il y en a d'autres qui existent à côté de nous. Donc la tolérance, c'est le fait d'intégrer en soi la différence. Et je l'ai dit, c'est le mérite de la culture européenne que d'avoir justement poussé jusque-là le concept de tolérance. Mais la notion de prochain, c'est tout autre chose. Et c'est d'une certaine manière de cette notion-là dont nous avons besoin à nouveau pour nous déprendre des prestiges de la logique révolutionnaire. Le prochain entend justement qu'il n'est pas réductible à telle ou telle qualité. Le prochain entend qu'il n'est pas simplement porteur de force intégrable dans un système ou dans une totalité, le prochain, en tant qu'il est à la fois distant et proche et qu'il échappe à ma prise. Le prochain, dans ce qu'en dit le Talmud, par exemple, que je ne connais pas très bien, donc là je m'aventure sur un terrain difficile, mais dans ce qu'en dit le Talmud, avec cette espèce de vigilance obsessionnelle qu'il a vis-à-vis de la calomnie. Il y a dans de très nombreux textes talmudiques consacrés à la calomnie, péché effectivement échappant à la justice, échappant aux tribunaux, mais considéré malgré cela comme une sorte de faute capitale et contre laquelle on ne doit jamais cesser de se garder. Et en quoi consiste la calomnie? Cela consiste à dire du mal du prochain. Et pas seulement. Il y a un petit apologue talmudique où un enfant montre à son père, je crois, un document et une lettre, et son père lui demande de l'ouvrir. L'enfant l'ouvre et dit, le père lit la lettre et l'enfant dit comme c'est mal écrit. Non, le père dit comme c'est mal écrit. Et l'enfant dit mais c'est un tel qui l'a écrit. Et le père lui répond, pas de calomnie. Quelques jours plus tard, la même scène se reproduit, mais le père, cette fois-ci, devant l'aide, dit, comme c'est bien écrit. Et l'enfant répond, c'est un tel qui l'a écrit. Et le père répond, pas de calomnie. Et le texte nous explique qu'il ne faut pas dire du bien de son prochain, car on en vient de fil en aiguille à en dire du mal. Il peut sembler qu'il y a là l'art de la chicane et de couper les cheveux en quatre, je crois qu'il y a une réflexion très, très, très profonde sur le danger d'abîmer les rapports avec l'autre à partir du moment où on parle de lui. C'est-à-dire à partir du moment où il devient le sujet d'un discours. C'est-à-dire que l'autre en tant que prochain n'est pas, est avant tout un interlocuteur, un « tu », mais et non pas un propriétaire de telle ou telle qualité. Réduire l'autre à un certain nombre de qualités dont il serait le propriétaire, c'est déjà l'oublier en tant que prochain. Donc la notion de prochain a cela d'exigeant que précisément elle nous conduit, elle nous demande d'interpeller l'autre, mais de ne jamais le faire, de ne jamais en faire le sujet, l'objet passif, inerte, mort d'un discours. Et il y a cette phrase de Queneau que l'on peut citer aussi dans ce sens-là, « Si je parle de quelqu'un, il est bientôt mort. » C'est une phrase qui va un tout petit peu dans le même sens. Et je crois que c'est là la vertu du judaïsme d'avoir introduit la notion de prochain dans le monde, et c'est de cette notion-là, d'une certaine manière, dont nous avons à nouveau besoin pour nous déprendre de ce que j'appelais justement la fascination de la logique révolutionnaire et pour faire éclater les totalités, la pensée totalisante qui a toujours pour but de réduire le visage à un rôle. Alors une deuxième... C'est trop long, hein ?
Pas long, bientôt l'heure.
Bientôt l'heure. Bon, alors je vais essayer d'aller... d'aller vite. Bon, alors je vais, j'avais un autre développement possible, mais que je pourrais faire s'il y a des questions. Je voudrais simplement conclure sur un petit point. Le messianisme révolutionnaire apparaît comme une consécration de l'histoire. C'est-à-dire, c'est le messianisme révolutionnaire, c'est cette attitude qui consiste à dire l'histoire a un sens. L'histoire a un sens. On peut mesurer les forces qui la régissent et l'on peut savoir où elle va. La perversion, l'autre perversion dont on peut parler du messianisme révolutionnaire, c'est précisément d'avoir voulu combiner les inconciliables, d'avoir voulu réconcilier dans un même schéma la nécessité et la morale, l'éthique et le déterminisme. Ce qu'il faut faire est aussi ce qui est inscrit comme une nécessité de l'histoire. Et là, je voudrais citer, pour conclure, un penseur dont on reconnaît de plus en plus l'importance, qui est Walter Benjamin. Walter Benjamin, c'est cet écrivain, critique littéraire, penseur juif allemand, ami, grand ami de Gershom Scholem, dont on a parlé tout à l'heure, qui a eu avec lui une très longue correspondance, publiée récemment, et qui a eu cette espèce d'originalité, dans les années 20 et 30, à un moment où vraiment les idéologies étaient, si vous voulez, les diverses grandes idéologies séculières étaient en bataille les unes avec les autres, l'originalité de Walter Benjamin, c'est d'avoir été à la fois tenté par le sionisme et par le communisme, au moment même où l'un et l'autre se lançaient les anathèmes les plus terribles. Mais il y a un livre de Benjamin qui s'appelle, je crois, « Mythe et révolution », où vous trouvez à la fin quelques thèses sur le matérialisme historique, quelques thèses sur l'histoire. Et dans ce livre-là, Benjamin exprime à la fois, reprend à son compte un certain nombre de thèmes marxistes et exprime ses réticences à l'égard du marxisme. Et sa réticence la plus forte, la plus originale, la plus singulière, est celle que lui inspire justement le messianisme juif. Il dit, à la fin de ses thèses sur la théorie de l'histoire, au moment où tout le monde a à la bouche, du côté des marxistes, que le sens de l'histoire, que le déterminisme, que la nécessité, etc., que l'anticipation de l'avenir, il dit il était interdit aux Juifs de prédire l'avenir, car en lui, chaque seconde était la porte par où pouvait passer le Messie. Autrement dit, ce qui le retient justement d'adhérer au messianisme révolutionnaire, c'est cette version-là du messianisme qui fait de l'anticipation de l'avenir une faute, alors même que dans le messianisme révolutionnaire, l'anticipation de l'avenir est une évidence et une nécessité. Et alors pour conclure tout à fait, je voudrais citer avant la discussion, si je la retrouve, une phrase d'Emmanuel Lévinas dans « Difficile liberté ». Voilà cette phrase, elle sera donc ma conclusion. « Si nous ne pouvons pas ressentir la part d'absurdité que l'histoire réalise, une part de notre sensibilité messianique est perdue. »
Bien, je dois vous dire que nous aurions pu vous écouter l'un et l'autre pendant des heures, mais il faut avancer dans le débat. Vous me permettrez simplement une réflexion d'introduction. Les sujets que nous abordons, dès que nous abordons le problème de la messianité juive, sont tellement vastes qu'il était sans doute inévitable, et j'ai essayé de le dire tout à l'heure, que des glissements de concepts à travers un si longtemps culturel n'apparaissent. Et nous avons peut-être à éviter des limites de généralisation trop larges de l'emploi des catégories qui nous sont proposées à la réflexion. Je pense que vos deux analyses étaient à leur place, l'une et l'autre, l'une à tendance plus historique, bien que d'histoire un peu lointaine, l'autre à dominante plus philosophique dans le temps contemporain, pour nous remettre cela en mémoire. D'un côté, nous avons entendu l'allusion à des aventures d'hommes qui, à l'échelle individuelle, à travers leur équation personnelle, ont tenté de se substituer à l'histoire de leur peuple. Et cela a été évidemment inséré dans le courant de l'histoire de la messianité juive. De l'autre côté, vous nous avez décrit ce qui arrive à un parti qui commence par désigner un idéal et qui très rapidement trahit son idéal. Mais le foyer de notre réflexion, je pense, doit être centré sur la messianité juive elle-même. Et je pense que vous aurez, à partir de votre expérience historique et philosophique, à mettre au point un certain nombre de questions que se posent les participants à ce séminaire. Et en particulier, j'introduirai par une première interrogation. Où, dans la société juive contemporaine, passe le courant de la messianité juive traditionnelle? Mais vous avez la parole.
Écoutez, j'ai repris dans cet exposé une association telle que je la trouve dans le langage courant. Je veux dire, on parle souvent de messianisme révolutionnaire et l'on dit qu'il y a une inspiration messianique dans la révolution parce que ce que veut faire la révolution, c'est, si vous voulez, mettre fin à l'injustice qui règne sur Terre. Ce que nous promet la révolution, c'est le temps des accomplissements. La révolution dit « je ferai, moi, ce que quelques religions attendent du Messie ». La révolution est messianique parce qu'elle prend sur elle la charge qui incombe dans la religion au Messie. Et donc, elle veut transférer pour elle-même cette tâche. C'est en cela qu'on peut la dire, ou qu'elle se dit elle-même, messianique.
C'est une réponse claire. Vous avez une autre question, oui.
Oui, enfin, je n'ai pas d'objection à ce que vous avez, à ce que vous avez dit. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la perversion la plus grave dans le messianisme révolutionnaire, c'était, enfin, on pouvait la résumer de deux façons. D'abord, de vouloir conjuguer, synthétiser, unifier une exigence morale et une nécessité historique en disant qu'elles procèdent du même mouvement. Donc cette intégration de la morale dans la nécessité pose effectivement des problèmes infinis. Et d'autre part, justement, à partir de cette vision de l'histoire comme nécessité, à partir de cette consécration de l'histoire, dans ce qu'on pourrait appeler peut-être cette idolâtrie de l'histoire, le fait de transformer tous les êtres humains en acteurs d'un drame qui serait en quelque sorte le drame de la raison et dont ils seraient à la fois les pions et les protagonistes. Et c'est cette double perversion que j'ai voulu analyser.
Est-ce qu'on pourrait expliquer pourquoi, selon la question de monsieur, il manque cette dimension d'amour ?
Je ne sais pas, vous avez une idée, non ?
C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de coïncidence exacte entre l'exigence morale et l'histoire.
Bien. Alors je peux répondre plus aisément tout de même. Il faut tout, oui, je crois qu'il y a ça nous ramène à quelques semaines en arrière. Il y a eu un colloque des intellectuels juifs consacré ici même au mois d'avril au problème des rapports entre le judaïsme et l'Europe. La question de savoir ce qu'on entend par l'Europe. Peut-on dire, par exemple, que le nazisme est une émanation de l'Europe, en révèle le vrai visage, ou ne peut-on pas dire au contraire, notamment à travers la liquidation des Juifs, que le nazisme est une destruction de la civilisation européenne ? Alors qu'une civilisation puisse sécréter en elle-même un certain nombre de forces capables de la détruire, cela nous en sommes sûrs. Mais je crois qu'il y a un danger très très grave pour nous à vouloir trop vite identifier le nazisme et l'Europe. Et parce que l'Europe s'est montrée coupable, parce que l'Europe a été le théâtre de l'apparition du nazisme, de dire au fond, voilà, le nazisme et l'Europe, c'est la même chose. Il y a là, je crois, un danger très très grave. D'autant plus que quel était avant l'irruption du nazisme, Quel était le peuple européen par excellence? Cela même dont la définition était européenne. C'était le juif, c'était les juifs. Les juifs étaient plus européens que les autres peuples parce que cette nation supraterritoriale était dans l'Europe, et notamment dans l'Empire des Habsbourg, un élément fédérateur, un facteur d'intégration très important. Et c'est en tant qu'il c'est aussi en tant qu'il représentait cela que les juifs ont été anéantis par le nazisme. C'est-à-dire qu'on peut dire deux choses du nazisme. On peut dire l'Europe a assassiné les juifs ou laissé faire l'assassinat des juifs. Mais on peut dire aussi, et je crois que les deux vérités peuvent coexister, même si elles sont formidablement contradictoires, on peut dire aussi le nazisme à travers les juifs a détruit une certaine réalité, une certaine idée européenne qu'on ne retrouvera plus. Et je crois que votre question met en cause l'évaluation que nous faisons d'un événement comme le nazisme et que nous faisons d'une civilisation comme l'Europe. Mais vraiment, je ne crois pas que l'Europe puisse être réduite au nazisme, et je dirais même plus, la seule civilisation à avoir identifié comme telle le concept de génocide et à l'avoir analysé, c'est l'Europe. Seule l'Europe, de toutes les civilisations existantes ou ayant existé, peut penser le génocide. Ce qui ne veut pas dire seule l'Europe peut pratiquer le génocide.
Si vous me permettez une petite question de précision de vocabulaire. Lorsque vous dites qu'à un certain moment de l'histoire de la civilisation européenne, corollairement à cette époque d'intolérance qui était le nazisme, mais ça c'est récent, il y a eu d'autres époques, mais ce n'est pas ma question. Je me demande s'il n'y a pas là encore le risque d'un glissement de vocabulaire. Quand vous dites « les juifs étaient l'Europe », sans doute vous voulez dire « les juifs européens ».
Oui. Les juifs européens, bien sûr.
Oui,
ben oui, je pense en Europe, les juifs étaient les européens par exemple. Je ne dis pas les juifs en général.
Oui,
non, les juifs d'Europe.
D'accord, mais parce que les juifs, c'est autre chose.
Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était pas un glissement de vocabulaire, c'était une approximation dans ma réponse. Je pensais que le peuple européen par excellence en Europe, c'était les juifs. Et c'est en tant que tel, précisément, qu'ils ont été assassinés par des gens qui voulaient mettre fin à cette idée-là de l'Europe.
D'accord. Y a-t-il d'autres questions?
Je voudrais poser la question suivante, s'il vous plaît. Est-ce que le développement des sectes s'inscrit-il dans cette dimension de révolution messianique, avec à la base le danger d'un nouveau modèle, allant jusqu'à éliminer la véritable famille au profit d'une nouvelle famille, comme c'est le cas, par exemple, chez vous?
Une question à laquelle je n'ai pas réfléchi avant de venir. Hein, ça, je dois dire.
Je ne suis pas entré dans les arcanes de la secte de Moon et je ne suis pas très bien placé pour répondre, mais pour autant que l'on connaisse l'histoire des mouvements messianiques juifs, et ils n'attendent pas à la personnalité humaine. Et fondamentalement, le messianisme juif, et c'est pourquoi nous sommes redevables à monsieur Finkielkraut de sa plongée dans ce messianisme révolutionnaire, messianisme que nous sommes, je crois, inaptes à comprendre. Le messianisme juif est essentiellement axé, d'une manière ou d'une autre, sur le Messie, vrai ou faux. Et ce Messie, c'est le roi, et le roi auquel on accepte. Le roi que l'on accepte volontiers, c'est le roi de la tradition juive, avec cette nuance d'affective extrêmement puissante, et c'est loin du Seigneur de toute manière, et qui réintroduit tous les concepts familiaux en les élevant de toute manière. Mais je ne crois pas qu'il y ait dépossession de la famille, comme il y a justement dans la logique interne de certains messianismes révolutionnaires.
Ne réussit pas ou s'il est tué, c'est que
Premièrement, soit c'était simplement un homme que Dieu a envoyé pour planter un petit peu comme la plantation prophétique que le Deutéronome écrit. Ou alors, troisième cas, eh bien, il peut surgir. Et il cite nommément Jésus de Nazareth comme exemple de cette troisième possibilité, quelqu'un qui se prétend à tort de le Messie. Donc, vous voyez qu'il y a là quand même une dialectique beaucoup plus fine qui peut peut-être expliquer que l'erreur est possible. Alors, la question que je pose dans cette perspective, est-ce que vous pensez, je ne suis pas historien, est-ce que vous pensez que les forces qui a précédé la venue de Shabbatai Tzvi a été une époque suffisamment catastrophique pour que l'espérance messianique ait pu se concrétiser en pensant que les événements étaient vécus des espérances messianiques. Deuxièmement, n'y a-t-il pas, et là, c'est une façon, comme vous l'avez dit également, de juger les mouvements pro-messianiques non pas avec ironie, mais avec sérieux. N'y aurait-il pas pour expliquer l'adhésion d'un certain nombre de sages, de rabbins, par ailleurs saints d'esprit éminents, dans ce comportement qui consiste, au début en tout cas, à adhérer de certaine façon au Messie, n'y a-t-il pas là un désir de la part de ces rabbins d'accélérer l'histoire en prenant l'initiative d'en bas consisterait à forcer la main à Dieu. Ramachénadi, tout à l'heure, posait une question très brutale. Dans l'époque contemporaine, que pourrait être considéré comme mouvement messianique ou faux messianique? Eh bien, on peut comprendre, en tout cas, sans prendre position sur le caractère messianique ou faux messianique de l'événement, on peut comprendre après des événements aussi énorme, aussi considérable que ceux représentés justement par le nazisme, par la destruction de plusieurs millions de vies, par Hiroshima, par tout cet ensemble d'événements possibles, que le sionisme, mouvement qui a sa valeur en tant que mouvement historique humain, mouvement politique, puisse être considéré également par certains comme mouvement messianique, et refusé par d'autres comme mouvement pro-messianique. Et je prends cet exemple, c'est également un événement que nous avons vécu, que nous avons connu, vécu, au cours de nous, il y a 40 ans. Cet événement massif d'histoire pouvait être considéré comme étant hein, une époque pré-messianique. Et on peut comprendre comment des rabbins qui auraient été réticents à considérer le retour en Israël prématuré comme messianique, puisse pouvoir aussi forcer la main. Donc, j'avais les deux questions. Est-ce que la prise en compte de ces éléments internes de la tradition juive ne sont pas importants pour comprendre l'histoire? Et que pensez-vous de l'existence de ces éléments au moment de la tradition?
Très bonne question, les deux. Vous avez la parole, et ensuite, vous direz une phrase.
Pour ce qui est, naturellement, de la doctrine de Maïmonide et du fait plus général que la Torah tout entière ne parle que du Messie, disent nos maîtres, et tout cela se trouve en grande partie dans Sanhedrin, page 10, page 90, il est certain qu'il y a des époques qui peuvent paraître privilégiées, et historiquement, l'époque de Shabbatai Tzvi l'était-elle. Certes, à un point. L'expulsion d'Espagne, ce n'était pas tellement son aspect catastrophique, historiquement parlant et froidement parlant, qui a rendu possible le mouvement mondial, quasi mondial, que fut celui de Shabbatai Tzvi. C'est le fait que les familles étaient pour la première fois des familles dispersées aux quatre coins de l'Oïkoumen et avait des liens extrêmement serrés, ce qui n'avait pas existé à d'autres époques. Au XVIIe siècle, on avait pour la première fois un même peuple depuis l'Europe et l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, jusqu'aux Amériques. Donc il y avait une disponibilité et une attente et une communication plus rapide Et puis, il y avait les événements extérieurs au judaïsme aussi. Le monde avait changé. Et c'est tout à fait exact que Baron attribue à l'année 1650 le décollage de l'histoire juive, la fin de ce qu'on peut appeler le Moyen-Âge et le décloisonnement de l'histoire juive avec tous les événements que sont la révolution d'Angleterre, que sont la guerre de 30 ans. Le monde était bouleversé. Les communautés juives le savaient. Quant au cataclysme polonais, certes, il pouvait paraître éloigné. Il ne l'était pas tout à fait, parce qu'il y a eu les campagnes, notamment de David Carcassoni et autres, pour racheter les captifs faits par les Cosaques et les Tatars. C'était donc une réalité bien proche des foyers de l'Empire turc. Quant au désir des rabbins, des élites, d'accélérer l'histoire face à ce mouvement qu'ils ne maîtrisaient pas à la vérité, on peut bien le penser, alors que nous n'avons pas vraiment, à ma connaissance, de confidence à ce sujet. Mais on est réduit à se poser, et je ne veux pas faire une trop longue réponse à un ensemble de questions aussi précis et aussi exact. Simplement, j'aimerais poser à mon tour une question impertinente. Il y a sans doute, et les définitions de Maïmonide nous permettent de le dire sans aucune crainte, des faux messies. Mais y a-t-il un faux messianisme? Il nous est très difficile de le croire. Le peuple juif, dans sa réponse, même erronée, était, d'ailleurs vous l'avez dit aussi, il y a eu des moments à l'intérieur des paroxysmes messianiques, il y a eu des moments qui étaient vraiment messianiques ceux-là. Et il nous est très difficile de déterminer à quel moment le train déraille. Mais que le train prenne cette direction, c'est la caractéristique même de l'histoire juive. Et il faut que, sans doute qu'il prenne cette direction pour que cette dimension messianique, avec toutes ses caractéristiques fort nuancées d'ailleurs, puisse apparaître.
Très bien. Eh bien, je crois que nous avons reçu beaucoup de choses ce soir dans les analyses et les précisions. J'ai simplement trois communications à vous faire. La première, sur la dernière question de mon ami Michel Prince, c'est tout simplement que le sionisme est antérieur au nazisme. Il y a eu référence à l'événement très massif du nazisme par rapport au temps contemporain des cataclysmes de l'histoire juive, de l'histoire universelle. Mais je crois qu'il y a là une convergence dans le temps qui est un peu trompeuse. En réalité, malheureusement, ce que craignaient les fondateurs du sionisme est arrivé plus tard avec le nazisme. Et d'autre part, et corollairement à cette première mise au point, et un peu dans le sens de ce que vient de dire M. Naon, il n'y a aucune notion de messie du sionisme, et à moins d'un abus de langage. Et effectivement, nous l'avons d'ailleurs étudié cet après-midi, peut-être un peu trop rapidement, le verset que Maïmonide lui-même cite pour parler de l'époque du rassemblement des exilés ne fait pas du tout allusion à un homme qui, à travers son équation personnelle, demanderait qu'on croie en lui comme étant le Messie, mais un mouvement national de retour de l'exil. Il y a donc une habitude peut-être à reprendre de façon plus directe des sources précises des grandes catégories de nos réflexions par rapport à ce sujet. Est tout à fait normal, à mon sens, qu'après 2000 ans d'une histoire si longue de la dispersion dans l'exil, nous ne soyons pas tout de suite tellement familiers avec les choses dont nous parlons concernant ce thème de la messianité, mais c'est de notre devoir d'explorer ce problème, parce qu'effectivement, il y a là un souci contemporain. Il est vrai que le monde, en général, traverse un temps de crise, on dit cela à chaque temps de passage, de transition, mais c'est la première fois.